Bonsoir, ce pourrait être un scénario cauchemar pour l'Occident. L'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz si la communauté internationale lui impose des sanctions sur ses exportations pétrolières. Le détroit d'Ormuz, situé entre le sultanat d'Oman et les côtes iraniennes, voit passer près de 40% du trafic maritime pétrolier mondial. Faut-il prendre au sérieux cette nouvelle menace iranienne ? On en parle dans un instant avec le spécialiste de l'Iran, Mohamed Reza Jalili. On reviendra ce soir sur les grandioses obsèques du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il. On appellera notre correspondant Frédéric Ojardias, qui a vécu un an en Corée du Nord. On évaluera avec lui la part de sincérité dans le respect du peuple nord-coréen pour son défunt cher dirigeant et son successeur Kim Jong-un. Le conseiller fédéral UDC, Uli Maurer, nous précisera tout à l'heure le rôle qu'il entend jouer au sein du Conseil fédéral pour les 4 prochaines années. Très déterminé, Uli Maurer, mais réaliste aussi, conscient qu'il sera très minorisé au sein du collège, nous dira Christian Favre vers 18h15. Un invité fil rouge pour commenter l'actualité ce soir, l'historien Karel Bosco, troisième invité de notre série de cartes blanches à des historiens cette semaine dans Forum. Après Alain-Jacques Tornard lundi, Antoine Fleury hier, Karel Bosco, enseignant d'histoire à la Faculté des Lettres de Genève, reviendra dès 18h45 sur l'idéal démocratique exposé et défendu sa vie durant par Václav Havel, l'occasion de réévoquer la révolution pacifique de velours à Prague en 1989 et de tisser un lien entre cette mobilisation sans violence du peuple tchèque avec celle des peuples de Tunisie et d'Égypte. On entendra le banquier François Savary vers 18h30 sur l'étonnant succès des obligations d'État italiennes, ainsi que sur le montant record déposé hier et aujourd'hui par les banques de la zone euro auprès de la BCE. On débattra ce soir de la réforme hospitalière dans le canton de Neuchâtel. Manifestement, c'est l'incompréhension complète entre les praticiens du terrain, les médecins et la classe politique. Le débat des 18h35 entre Pierre-Yves Billa, président de la Société Neuchâteloise de Médecine, et le député socialiste de la Chaux-de-Fonds, Théo Huguenin-Elly. Enfin, le théologien vaudois Pierre Glardon commentera la fin probable d'un des derniers reliquats de la morale protestante neuchâteloise. Le gouvernement neuchâtelois souhaite en effet assouplir l'interdiction de danse publique en vigueur dans le canton durant les jours de fêtes religieuses. Le ciel s'annonce couvert ce soir avec quelques chutes de neige partout durant la nuit. Le temps sera nuageux demain, moins 1 degré à l'aube, jusqu'à 4 degrés dans l'après-midi. Les prévisions complètes d'Éric Fauchère juste avant 19h.
Forum, Laurent Keller, Laurent Caspary.
L'historien Karel Bosco est avec nous en direct de Genève dans le cadre de notre série de cartes blanches des historiens tout au long de cette semaine dans Forum. Bonsoir Karel Bosco.
Oui, bonsoir, bonsoir à vous et merci de m'accueillir une fois encore.
C'est un plaisir, vous êtes notre troisième invité après Alain-Jacques Tornard et Antoine Fleury hier. Karel Bosco, vous enseignez à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, au Collège Claparède également. Vous avez travaillé notamment sur la construction de l'État-providence, également sur les rapports entre politique et non-violence. Ça, c'est un travail important à vos yeux?
Écoutez, oui, parce que longtemps la non-violence a été confondue avec un idéal, je dirais, peut-être un peu folklorique, alors qu'en fait la non-violence, elle nourrit tout un discours et surtout toute une pratique politique spécifique. Alors ça, on l'a vu en Inde à l'époque de Gandhi, on l'a vu aux États-Unis avec Martin Luther King, et puis on l'a vu depuis, et notamment dans des pays comme la Serbie, comme l'Ukraine. Il y a là, je dirais, toute une expérience politique intéressante qui est fondée précisément sur la mobilisation pacifique d'une population. Et puis, il y a effectivement les printemps dont il a été question hier, printemps de Tunis, printemps du Caire, où là aussi, on voit une population qui n'est pas d'emblée animée par des sentiments de haine ou de violence à l'endroit d'un pouvoir qui, lui-même, a exercé souvent la violence contre la population.
Les différents printemps, on y reviendra dès 18h45 avec vous, Karel Bosco, puisque vous souhaitez revenir ce soir sur l'idéal démocratique défendu toute sa vie par Václav Havel.
Oui, écoutez, vous m'avez invité et je vous en remercie à l'occasion de l'annonce du décès de Havel. Il y avait évidemment beaucoup de choses à dire, on n'avait pas pu dire grand-chose. Je crois qu'il faut réfléchir sur ce qu'il nous laisse. Il y a le personnage, il y a son histoire, il y a son expérience propre. Et puis il y a sa réflexion, c'est une réflexion qui s'enracine dans toute une réflexion propre à l'Europe centrale et qui, à mon avis, peut ici nous éclairer. Et je crois qu'il vaut la peine de s'y arrêter encore un tout petit peu parce que l'actualité est très pressée. Une actualité chasse l'autre et on risque d'oublier rapidement Havel en n'y voyant qu'un personnage historique alors qu'il s'agit aussi précisément d'une réflexion à long terme qui peut nous engager ici même.
L'Europe centrale que vous évoquez largement dans votre dernière publication qui s'intitule « L'humanisme endurant ». Karel Bosco, on vous retrouve dès 18h45 sur Václav Havel, l'Europe centrale, la démocratie. Vous restez avec nous tout au long de l'émission. On accueille Mohamed Reza Djalili à vos côtés au studio de Genève. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, on va parler de l'Iran qui menace de fermer le détroit d'Ormuz, Laurent Caspary.
Oui, c'est l'actualité du jour. L'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz si la communauté internationale lui impose des sanctions sur ses exportations pétrolières. Cet étroit passage entre le sultanat d'Oman et les côtes iraniennes voit passer près de 40% du trafic maritime pétrolier mondial, soit 20% de la totalité de la consommation pétrolière mondiale. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït ou encore l'Irak exportent une partie de leur or noir via le détroit d'Ormuz, sans oublier la totalité de la production du gaz liquide du Qatar.
Mohamed Reza Djalili, cette dépêche qui vient de tomber, les USA ne toléreraient pas une fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. On voit bien sur la carte, très stratégique, ce détroit d'Ormuz. Ces menaces, selon vous, il faut les prendre au sérieux. Ce n'est pas la première fois que l'Iran joue avec cette carte-là.
Non, ce n'est pas la première fois. Il faut remonter aux années 80, pendant la guerre Iran-Irak. Il y a eu une période entre 1984 et 88 où il y avait cette guerre des tankers, des pétroliers, où il y a eu à peu près 500 attaques contre des navires dans les eaux du Golfe Persique. Mais cette fois, je pense qu'il faut à la fois prendre ces menaces comme crédit, puisque l'Iran a des capacités de nuisance très importantes, plus importantes que dans les années 80, des vedettes rapides, des mines flottantes, des missiles anti-navires, etc. Mais en même temps, je pense qu'un blocus du détroit, pour l'heure du moins, est improbable parce que les Iraniens se rendent compte que c'est vraiment un casus belli et la dépêche que vous avez signalée du côté américain prouve que c'est vraiment une décision très grave. Alors, les Iraniens vont attendre le mois de janvier pour voir ce que la communauté européenne va décider à propos de l'embargo pétrolier. Mais même s'il y a cet embargo, dont je doute qu'il y ait une unité entre les 27 membres de la communauté, mais même s'il y a cet embargo, ça ne touche pas tellement le pétrole iranien qui est essentiellement exporté vers la Chine, vers l'Inde, vers le Japon, la Corée du Sud, vers l'Asie plutôt que vers l'Europe. Donc cette menace existe, il faut la prendre au sérieux, mais non, il ne faut non plus pas tomber dans un catastrophisme exagéré.
Menace réelle, Mohamed Reza Djalili. On voit bien le scénario cauchemar que cela pourrait représenter pour les Occidentaux avec ce détroit tout à fait stratégique. En pratique, est-ce que l'Iran peut effectivement mettre en place un blocage pareil ? On sait que l'armée est en train de faire des exercices dans cette zone en ce moment, mais est-ce qu'elle a réellement les moyens de l'opérer, ce blocage ?
Vous le savez, il faut vraiment pas beaucoup de moyens. Il suffit vraiment de menacer, de faire couler un ou deux pétroliers pour que les autres pétroliers, les armateurs, les assurances refusent de passer à travers le détroit, et ce qui bloquerait l'envoi du pétrole à l'extérieur. Ce serait très dommage pour l'économie internationale, mais ce serait surtout dommage en premier lieu pour les pays riverains du Golfe Persique qui, eux, ne pourraient pas exporter puisque le détroit est quasiment incontournable. Il y a des pipelines, mais ça ne peut pas remplacer à l'heure actuelle le passage maritime à travers le détroit d'Ormuz.
On voit que l'Iran a bas une carte là importante. Elle touche au cœur des intérêts occidentaux, le pétrole. Est-ce que l'Iran a beaucoup d'autres cartes à jouer ou là elle a franchi un cap important?
Non, ça c'est un cap très important parce que ça concerne le système global, mais des cartes régionales, l'Iran en a en Irak, en Afghanistan, au Liban à travers le Hezbollah, en Palestine à travers le Hamas. Ça, c'est des cartes régionales, l'Iran en possède de nombreuses, je pourrais dire, mais au niveau global, le détroit d'Ormuz reste quand même l'élément essentiel parce qu'il faut quand même pas oublier que le golfe Persique, c'est le cœur pétrolier du monde et que la seule voie d'accès à ce cœur pétrolier, c'est le détroit d'Ormuz.
On voit les tensions s'accumuler, Mohamed Reza Jalili. On sait, on connaît les Américains, ils sont très présents dans la région. Ils ont déjà averti, notamment sur le programme nucléaire iranien. Le scénario d'une intervention étrangère sur l'Iran gagne du terrain, selon vous ?
Ces derniers temps, surtout après la publication du rapport de l'AIEA en novembre dernier, la situation s'est aggravée puisque ce rapport disait qu'il était possible que le programme nucléaire iranien ait des dimensions militaires. En même temps, il faut ne pas oublier aussi que le contexte régional est très défavorable. Vous savez, il existe maintenant une sorte de guerre froide entre l'Arabie saoudite avec de son côté tous les pays membres du Conseil de coopération du Golfe et de l'autre côté l'Iran. Et il y a véritablement une opposition entre le nord et le sud du Golfe, surtout à propos du printemps arabe et de l'intervention des Saoudiens à Bahreïn. Donc le contexte est très très négatif, la situation économique aussi iranienne elle est très mauvaise parce que les sanctions commencent à avoir des effets. Tout cela conjugué ensemble font que la situation peut être plus grave que par le passé.
Oui, néanmoins, ce n'est pas la première fois qu'il y a cette montée, cette escalade verbale, on va dire. Hein. À chaque fois, ça s'est calmé. Là, cette fois-ci, vous pensez que c'est un peu plus grave que les fois précédentes ?
Oui, en partant du contexte et en tenant compte du fait qu'on ne trouve vraiment pas de solution pour sortir de cette crise du nucléaire iranien. Donc, je pense qu'on va passer un moment très sensible. Mais néanmoins, il faut savoir que le gouvernement iranien peut être très méchant, mais en même temps, ils ne sont pas suicidaires et ils mènent parfois une politique de bord du précipice sans véritablement tomber dans le précipice. Donc, ils savent très bien que si on ferme, par exemple, le détroit d'Ormuz, ce sera extrêmement grave et que l'Iran va avoir toute la communauté internationale sur le dos et surtout les Américains qui sont très très présents dans les eaux du Golfe Persique et de l'océan Indien.
Merci beaucoup Mohamed Reza Jalili, ancien professeur à l'Institut des hautes études et du développement à Genève, spécialiste de l'Iran. Une très bonne soirée à vous.
Merci.
Karel Bosco, cet acteur qu'est l'Iran, menaçant, qui inquiète notamment les chancelleries occidentales, l'Amérique au premier chef. Votre regard d'historien ?
Alors, je pense pas que je puisse avoir un regard d'historien, parce que, disons, je connais un petit peu l'Iran ancien, mais l'Iran actuel, j'en suis de loin pas un spécialiste. Ce serait plutôt un regard de citoyen, et évidemment de citoyen inquiet. Et je crois qu'en l'occurrence, il faut impérativement qu'une puissance médiatrice, propose ses bons offices, mais rapidement, entre l'Iran et les États-Unis.
Une médiation.
Je pense qu'il y a des possibilités de dialogue, il y a des dialogues qui doivent se faire, d'ailleurs peut-être dans l'ombre, mais il faudrait que ça se fasse de manière plus claire, je dirais plus impérative aussi.
Laurent Caspary, on poursuit l'actualité, on revient sur les funérailles du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il. Oui, elles se sont déroulées cette nuit, heure suisse, sous la neige. Le fils et successeur Kim Jong-un était aux côtés du corbillard. Les images diffusées par la télévision d'État nord-coréenne ont montré pendant 3 heures des centaines de milliers de civils et de militaires pleurant le leader disparu à Pyongyang. Nous avons appelé tout à l'heure Frédéric Ojardias, notre correspondant en Corée du Sud. Il a vécu une année en Corée du Nord entre 2007 et 2008 en travaillant pour les Nations Unies. Nous lui avons demandé de nous décoder ces funérailles mises en scène par le régime.
Chaque image que montrent les médias nord-coréens est préparée à l'avance et savamment orchestrée. Donc, sur les larmes qu'on a vues aujourd'hui, personnellement, je pense que oui, elles étaient mises en scène. Ceci dit, sur le respect des dirigeants, moi, de mon expérience, il était vraiment absolu et tous les Nord-Coréens que j'ai pu rencontrer, et de tous les niveaux que ça soit, en fait, j'ai passé un an en Corée du Nord là-bas, j'ai pas été témoin d'un seul geste, une seule parole qui puisse être interprétée comme une critique des dirigeants. Parfois, il y a des critiques du système, des difficultés économiques, des coupures de courant, des tracasseries administratives qui sont vraiment kafkaïennes, mais des dirigeants jamais. Et en particulier, le fondateur du régime, Kim Il-sung, qui est le père de Kim Jong-il et le grand-père du successeur, Kim Jong-un, la propagande a fait un travail très efficace et il semble qu'il était vraiment aimé le grand nombre de ses concitoyens. Beaucoup de réfugiés ont expliqué qu'à sa mort en 94, ils étaient vraiment tristes et que leurs larmes n'étaient pas feintes. Et je suis persuadé que si un jour il y a une réunification, les Nord-Coréens refuseront qu'on déboulonne les statues de Kim Il-sung. Pour Kim Jong-il, c'est beaucoup moins sûr, notamment parce que son arrivée au pouvoir a coïncidé avec l'épouvantable famine qui a fait près d'1 million de morts et qui a complètement bouleversé le système économique du pays. Aujourd'hui, au Nord, la corruption est endémique, le marché noir est omniprésent et le système centralisé de distribution publique est détruit. Il ne faut pas oublier que la propagande a réussi à associer très étroitement nationalisme et amour des dirigeants, et les Nord-Coréens sont très très nationalistes.
Frédéric Jardias, vous avez pu voyager dans ce pays, rencontrer donc des gens. En général, ceux qui peuvent aller en Corée du Nord, ils ont énormément de peine à approcher les citoyens normaux, les citoyens lambda. Vous avez pu avoir un contact, sans guide, sans surveillance, avec la véritable population de la Corée du Nord?
C'est très difficile. Quand on allait dans les campagnes, on avait toujours avec nous nos équipes, qui étaient constituées de traducteurs, d'officiers de liaison, de chauffeurs. À Pyongyang, oui, les travailleurs humanitaires, les diplomates sont complètement indépendants. On avait des permis de conduire, on se déplaçait comme on voulait. Les Coréens qu'on rencontre dans la rue sont toujours très timides, même si parfois certains sont curieux, parlent un peu, parlent quelques mots d'anglais, n'hésitent pas à aborder. Ce qu'on m'a dit, c'est que moi, à mon époque, les gens nous parlaient dans la rue et que c'était un grand changement par rapport à quelques années avant, où semble-t-il, les gens étaient beaucoup plus timides. Après, ceci dit, les gens qu'on rencontre, ça va être des conversations très superficielles et c'est très difficile de vraiment devenir ami avec des Nord-Coréens hors de tout contrôle. Et c'est impossible, par exemple, d'aller chez les gens de façon amicale. Hors du cadre de mon travail, j'ai jamais pu visiter de foyer nord-coréen.
Vous évoquiez tout à l'heure le respect inculqué dès l'enfance aux Nord-Coréens. Est-ce qu'on peut dire qu'il est couplé à une forme de fierté nationale très présente, très réelle? Fierté d'être un peu seul contre le reste du monde?
Oui, complètement. C'est même une constante absolue. Tous les Nord-Coréens que j'ai rencontrés, sans exception, sont tous très fiers de leur pays, très fiers d'être Coréens. Face à la Corée du Sud, en fait, ils sont persuadés d'être les dépositaires d'une tradition coréenne authentique qui, selon eux, s'est complètement perdue du côté de leurs frères américanisés du Sud. Pour eux, l'esprit, le véritable esprit de la Corée, il est au Nord. Et puis, face aux États-Unis, ils se voient comme le pays qui a réussi à tenir tête à l'hyperpuissance américaine. C'est pour ça, par exemple, qu'ils sont très fiers de leur programme nucléaire. C'est ce qui leur permet de rester indépendants et de rester eux-mêmes. Et puis, c'est vrai que vu de l'extérieur, on a un peu l'impression qu'ils sont tout seuls au monde, mais beaucoup de Nord-Coréens sont persuadés que les valeurs qu'ils défendent sont les bonnes.
Kim Il-sung, puis Kim Jong-il, demain Kim Jong-un. Est-ce que toute cette tradition, tout ce respect et cette fierté nationale va se projeter désormais sur le nouveau venu, le successeur?
Très probablement, oui. Le processus a déjà commencé, en fait. Ça fait 1 an que Kim Jong-un accompagnait son père dans ses fameuses visites sur le terrain, ses visites à travers toute la Corée du Nord, dans différents baraquements de l'armée, dans des usines, dans des centres commerciaux, donc des visites qui étaient ponctuées de conseils distribués sur le tas. Depuis une semaine, son nom a commencé à apparaître en caractère gras dans le journal, ce qui était déjà le cas pour son père et son grand-père. Et puis, il commence maintenant à se voir attribuer les titres de son père. On l'a appelé commandant suprême de l'armée, il est devenu le cher camarade, le leader clairvoyant, le soleil de la nation. Son grand-père était appelé le soleil du XXe siècle, son père le soleil du XXIe siècle, puis c'est le soleil de la nation. Des réfugiés nord-coréens m'ont dit qu'il y avait des rumeurs qui circulaient en Corée du Nord comme quoi il avait tiré pour la première fois au pistolet à 3 ans et quand il avait tiré 20 balles et que c'est 20 balles qui avaient touché 3 fois le but. Ce genre d'histoire, beaucoup sont attribués à Kim Jong-il et Kim Jong-un commence lui aussi à se voir attribuer ce genre d'histoire.
Frédéric Ojardias, notre correspondant en Corée du Sud.
Karel Bosco est avec nous au studio de Genève, historien. Votre regard, Karel Bosco, de citoyen sur cet étrange lamento.
De citoyen et puis par rapport aux témoignages, parce qu'on dispose quand même de témoignages et notamment de nombreux réfugiés nord-coréens en Corée du Sud, voire au Japon. Je crois que c'est un pays qui est totalement enfermé en lui-même, en fait. Il y a un isolement complet par rapport au reste du monde, ce qui fait que la population ne sait pas exactement ce qui se passe et ne peut, dans le fond, qu'applaudir aux décisions qui viennent du régime. Et ce sont des applaudissements de commande, on le comprend bien, et le chagrin est peut-être aussi de commande, à moins que, ce que j'ai entendu dire, donc c'est peut-être la seule occasion de pleurer qui leur soit donnée durant leur vie et durant leurs manifestations publiques. Pour le reste, je crois qu'il faut, écouter la voix des réfugiés. Et ce sont des voix qui sont très nombreuses et qui nous disent l'immense détresse, spécialement dans les campagnes, parce qu'évidemment, ce sont ces régions-là que nous ne voyons pas si nous y allons en voyage, et ces régions-là où la famine règne, et la peur règne, et je crois que c'est là la réalité profonde, hélas, de la Corée du Nord.
Karel Bosco, vous restez avec nous jusqu'au terme de cette édition. On va passer à l'actualité suisse. Le ministre de la Défense, Uli Maurer, a convié la presse aujourd'hui pour tirer le bilan de l'année écoulée.
Oui, et aussi pour porter un regard sur les défis qui attendent son département en 2012. L'occasion pour nous d'évoquer le rôle d'Uli Maurer au sein du Conseil fédéral pour les quatre prochaines années où il sera le seul représentant de l'UDC. Christian Favre a commencé par lui demander comment il comptait faire sa place dans un gouvernement où il sera systématiquement minorisé.
Personnellement, c'est absolument pas de problème. Je travaille très bien avec mes camarades. Et notre parti est depuis 15 ans pas représenté au Conseil fédéral comme c'est la volonté des électeurs. Ben je pense qu'on peut vivre avec ça.
Vous avez été pendant plus d'une dizaine d'années le stratège de l'UDC, le président du parti. Quel regard vous portez sur la stratégie qui a été menée le 14 décembre?
Si je critique mon parti, je le fais entre quatre yeux et pas aux médias.
Votre parti va être devant les médias pour discuter de sa participation au Conseil fédéral. Ce sera le 28 janvier prochain. S'il décide d'aller dans l'opposition, qu'est-ce que vous faites?
Dans ce cas, ça c'est clair pour moi. Je fais du vélo ou quelque autre chose. C'est clair, mais je pense pas que le parti veut décider à ça.
On vous a entendu aujourd'hui très motivé, en tout cas sur votre travail au département. On a l'impression que pour vous, c'est un petit peu une manière de dire Uli Maurer reste encore 4 ans au Conseil fédéral.
Non, si le parti, si notre base du parti décidera pas comme ça, je me retire tout de suite du Conseil fédéral. Ça, c'est clair pour moi.
Certains ont dit que si vous restez au Conseil fédéral ces prochaines années, vous seriez un petit peu l'espion, l'œil de l'UDC au sein du Conseil fédéral. Comment vous considérez ce type de remarque?
Je pense que chaque Conseil fédéral est toujours membre de son parti, moi aussi. Espion, ça c'est un peu fort, mais ça c'est notre système. Pour écouter, pour informer, pour décider, chacun fait ça depuis des années.
Christian Favre, vous êtes en direct de notre studio du Palais fédéral. Alors on l'a entendu, Uli Maurer veut tenir son rôle au sein du Conseil fédéral.
Oui, il a même clairement affiché sa détermination tout à l'heure. Alors bien sûr, Uli Maurer est un bon soldat. Il s'inclinera si son parti décide qu'il doit quitter le gouvernement parce qu'il n'a pas obtenu un deuxième siège au Conseil fédéral. Mais franchement, ce n'est pas un scénario très réaliste. C'était intéressant tout à l'heure de voir Uli Maurer parler avec beaucoup d'enthousiasme de son travail à la tête du département de la Défense. Il a également estimé que le concept d'opposition n'appartenait pas au vocabulaire politique de la Suisse. Sur ce terrain, on peut dire qu'Uli Maurer prend ses distances avec les menaces lancées par plusieurs ténors du parti après la déconfiture du 14 décembre.
D'accord, mais reste Uli Maurer restera très minorisé au sein du Conseil fédéral.
Oui, le Zurichois en est conscient. Vous l'avez entendu, il va jouer en quelque sorte un double jeu, celui du ministre de la Défense et celui de l'informateur au service de l'UDC. Et cela est d'autant plus intéressant que le principal dossier qu'il va défendre, soit le financement des nouveaux avions de combat, eh bien, va le mettre en opposition avec la plupart de ses collègues du Conseil fédéral. Pourquoi? Eh bien, parce que cet achat va nécessiter 600 millions de dépenses supplémentaires et donc aussi 600 millions à économiser dans des domaines comme l'agriculture, les infrastructures, la recherche ou encore l'aide au développement. De quoi mettre le Zurichois en conflit avec au moins 4 autres départements, ce qui va renforcer son isolement. Bref, c'est un début de législature très compliqué qui s'annonce pour Uli Maurer, avec probablement un scrutin populaire pour décider du sort de ses avions. Le Parlement va se prononcer l'automne prochain sur le financement des 22 Gripen commandés au constructeur suédois Saab. Si un référendum est lancé, le peuple sera amené à trancher. Ce sera sans doute à la fin 2013.
Christian Favre, merci.
Avec nous, Jean Russotto, bonsoir.
Bonsoir.
Jean Russotto, vous êtes avocat d'affaires suisse, établi à Bruxelles. On va revenir avec vous sur les propos de la chef du SECO, paru dans la NZZ du jour, Laurent Caspary.
Oui, c'est à propos de ces fameuses bilatérales 3 qui empoisonnent les relations entre l'Europe et la Suisse. Alors aujourd'hui, dans la NZZ, Marie-Gabrielle Inaichen, directrice du SECO, s'est montrée très sévère envers l'Union européenne. Elle estime que Bruxelles a une attitude dogmatique dans les négociations et que si l'Union européenne se montrait un peu plus flexible, eh bien la situation pourrait alors se débloquer.
Jean Russotto, tout irait bien. Les bilatérales 3 pourraient se mettre en place si l'Europe était moins dogmatique.
Écoutez, l'histoire, la relation de la Suisse et de l'Union européenne est en fait un petit peu plus, je crois, qu'un bateau. Il ne s'agit pas d'être guidé par les circonstances, il faut parfois les guider, ces circonstances. Et quand on entend parler de dogmatisme, je crois que c'est pas faux, c'est pas entièrement faux, n'est-ce pas, depuis 2008, et répété en 2010, l'Union européenne a déclaré qu'elle voulait repenser, remoduler ou refaire, pas rebâtir certainement pas, les relations qu'elle entretient avec la Suisse. C'est un peu compliqué, c'est même très complexe. Je crois qu'à ces demandes qui ont été présentées par l'Union de façon relativement souple, j'ai l'impression que la Suisse a réagi de façon très distante, très froide, car ce sont là des questions de souveraineté très importantes, très difficiles. Donc, dogmatisme, oui, mais c'est de nouveau appelé, si vous voulez, l'une et l'autre des parties au jour d'aujourd'hui, à ce moment, dogmatique. Donc je crois qu'il y a du dogmatisme, en effet, de part et d'autre.
De part et d'autre, Jean Russotto, on voit bien le rapport de force aujourd'hui qui s'est engagé. La Suisse, qui demeure quand même un État souverain, et qui, dans le rapport de force, dirait-on, n'est pas franchement en position de faiblesse aujourd'hui.
La Suisse n'est certainement pas en position de faiblesse. Elle est un des partenaires les plus importants de l'Union européenne, et l'Union le sait. Ce qui se passe, je crois que les circonstances ont changé. L'Union est en crise, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand politicien pour le savoir. La crise de l'euro est là et le système politique n'est pas exactement à l'image du système fédéral suisse qui fonctionne si bien. Donc la Suisse est demandeuse à plusieurs égards et en même temps l'Union qui en fait pratiquement une question de survie, c'est-à-dire où va-t-elle ? Devant ces grands ensembles mondiaux qui se développent, l'Union doit s'assurer d'une certaine cohérence intérieure. Et, au centre de l'Europe, ce partenaire extraordinaire, économiquement parlant, la Suisse, demande beaucoup, et à juste titre. Et l'Union dit, si vous voulez participer à cette course vers la survie, j'exagère un peu, mais c'est presque ça, essayons d'appliquer les règles que nous appliquons dans notre grand marché de 500 millions d'habitants. Et pour la Suisse, c'est difficilement acceptable.
Jean Russotto, quel risque, en fin de compte, en cas de paralysie? Parce qu'on voit, hein, les deux positions sont difficiles à bouger. Chacun s'accuse peut-être un peu de dogmatisme. Quel risque pour les deux parties en cas de paralysie?
La paralysie, je crois qu'elle gagne l'État le plus faible, la partie économiquement la plus faible pour l'instant, la Suisse. La Suisse a besoin des règles du marché intérieur pour fonctionner, elle le sait. Prenez l'exemple de l'électricité, il y en a d'autres. Toute une série de questions d'ordre fiscal qui seront à l'agenda de 2012. Donc je crois que dans cette analyse globale à laquelle vous faites allusion, la Suisse a plus à perdre de rester statique et de stagner. Le problème, c'est que la Suisse n'aime pas, en fait, cette musique concertante de Bach. Elle trouve des dissonances, et en fait, l'Union trouve que sa musique de chambre fonctionne relativement bien. Et dès lors, comment accorder les violons, si je puis dire? Mais ce n'est pas de la politique. Je crois que la vraie dimension est une dimension économique, et il est grand temps, entre cette non-adhésion qui est une réalité, et ce statu quo, de trancher.
Jean Russotto, pour conclure, ce statisme suisse que vous regrettez, au fond, il n'est pas un peu encouragé par les divisions au sein de l'Europe, entre une Europe qui nous dit les bilatérales c'est fini, puis l'autre Europe, l'Allemagne, qui signe des accords bilatéraux sur le plan de la fiscalité avec la Suisse, l'impôt libératoire?
La remarque est correcte. L'image dégagée par l'Union n'est pas satisfaisante. Mais en fait, je vous reprends un tout petit peu. L'Union n'a jamais dit que les bilatérales c'était terminé. La Suisse doit et l'Union européenne doivent s'entendre. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut repenser la relation, il faut la placer à un niveau différent et engranger tous les succès qui sont considérables. Et je crois qu'avec un peu de volonté politique, et c'est peut-être ce qui manque finalement, et une opinion publique un petit peu plus souple, ce qui est difficile, on pourra sortir du statisme.
Merci beaucoup Jean Russotto, avocat d'affaires suisse établi à Bruxelles. Très bonne soirée à vous.
Merci, bonsoir.
Karel Bosco, la Suisse et l'Europe, au fond, elle fait moins envie aujourd'hui cette Europe, en ce qui concerne la Suisse, d'un plan suisse.
Oh ben disons, moi je me souviens du climat qui régnait à l'époque où on a voté sur l'espace économique. Il y a eu un débat extraordinairement vif. Enfin, on se souvient de l'action de Felber, de Lamura. Je me souviens aussi du climat qui régnait avant même tout ça. L'Europe créait l'enthousiasme, suscitait l'enthousiasme, et pas seulement dans la jeunesse. Tout le problème, je crois qu'il est qu'on a totalement dissocié dans la construction de l'Europe le politique, l'économique, le social, le culturel, l'écologique, alors que tout ça forme un tout. Et aujourd'hui, on n'est plus que sur l'économique. D'où de grandes difficultés de compréhension, je pense, entre les Suisses et l'Union européenne, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur l'approche même, dans le fond, de la prise de décision. Il n'y a pas véritablement de prise de décision démocratique à l'échelle européenne, ce qui rend notre rapport à l'Europe difficile et du coup nos discussions sur le terrain économique difficiles. Alors comment faire ? Là, il n'y a pas de recette, mais simplement il faudrait essayer de comprendre que l'Europe n'est pas uniquement, je dirais, centrée sur un domaine particulier.
On y reste quand même 5 minutes de plus sur l'économique avec cette actualité. Les banques ont déposé des montants records à la BCE, Laurent Caspary. Oui, en fait, la journée était marquée par deux événements. Tout d'abord, il y a eu le succès d'une émission obligataire en Italie. Le Trésor italien est parvenu à placer pour 9 milliards d'euros d'obligations de la dette publique du pays, à court terme, 6 mois, à un taux de 3,25%, c'est-à-dire deux fois plus faible que le taux atteint lors d'une opération similaire fin novembre dernier. Et puis, entre hier et aujourd'hui, vous l'avez dit, les banques de la zone euro ont déposé la somme record de 452 milliards d'euros auprès de la Banque Centrale Européenne. Alors nous avons joint François Savary, directeur des investissements chez Rail et compagnie. Il commence par nous expliquer pourquoi l'Italie a réussi aujourd'hui à emprunter 9 milliards à un taux relativement faible.
C'est le fait que la maturité de la dette soit relativement courte, ça peut expliquer pour partie que les investisseurs aient considéré que le risque était relativement limité. Par contre, j'en déduirai pas plus qu'il ne faut en déduire. On reste dans un environnement qui est difficile sur la question de la dette étatique européenne. Et c'est pas parce qu'une émission s'est relativement bien passée que désormais la question est derrière nous. Je crois que c'est une question de longue haleine.
Longue haleine, mais il y a quand même un effet Mario Monti.
On peut dire qu'il y a un effet Mario Monti et il y a surtout un effet de répit par rapport à la chute de Berlusconi. Je crois que très clairement, les gens ne voulaient plus de Berlusconi. Il y avait une perte de crédibilité évidente. Et donc le fait qu'aujourd'hui, on ait un technocrate qui s'y connaisse quand même en économie et en finance à la tête de l'Italie donne une certaine crédibilité au programme d'ajustement qui seront mis en place au cours des prochains mois.
Mais alors, si les bourses européennes n'ont pas manifesté un énorme enthousiasme, est-ce qu'elles partagent un petit peu votre avis ? C'est sur le long cours qu'il faudra juger.
Je pense que les bourses restent extrêmement prudentes. On sait qu'il y a un certain nombre de développements qui ont lieu à l'heure actuelle en Europe sur le front économique. Énormément d'incertitudes sur la capacité de l'Europe à éviter une récession au cours des prochains trimestres. Donc l'Europe est chahutée finalement entre une problématique européenne qui reste sur le devant de la scène, qui certains jours passe un petit peu en retrait, mais qui d'une manière générale fait que les investisseurs ont de la peine à s'installer durablement sur les marchés des actions.
Cela dit, c'est pas terminé pour l'Italie. Elle devra émettre 5 à 8 milliards d'euros d'obligations à 3, 9, 10 ans. Pour eux, le problème reste entier.
Le problème reste entier parce que vous avez un problème qui est un problème européen à la base, qui est un problème d'excédent, de déficit ou de déficit excédent, de déficit excessif, pardon, ou d'endettement qui sont excessifs. Ce sont des problèmes qui ne peuvent se traiter que sur la durée. Et partant du fait que vous allez avoir des conditions économiques faibles l'année prochaine en Europe, il va être extrêmement difficile. La marge de manœuvre des gouvernements est très faible. Et donc, partant de là, on peut considérer qu'on va rester dans un environnement qui sera chahuté.
François Savary, l'autre nouvelle du jour, ce sont les banques de la zone euro qui ont déposé la somme record de 452 milliards d'euros auprès de la BCE. Somme record, vous voyez un lien avec l'Italie ou pas du tout ?
Oui, il y a un lien, je dirais d'une manière générale, entre le fait que les banques européennes soient en difficulté, ou en tout cas qu'elles aient eu besoin de cette aide, d'une certaine manière, de la part de la Banque Centrale Européenne, et le fait que vous avez une problématique importante de dette des États. On sait que les banques européennes ont à leur bilan un certain nombre de dettes étatiques qui posent problème. On sait qu'elles auront des besoins de refinancement extrêmement importants l'année prochaine, par le biais d'obligations, et donc il était nécessaire de limiter finalement le risque de voir ces banques ne plus avoir suffisamment de liquidités pour se refinancer. Donc le fait qu'aujourd'hui elles aient emprunté, qu'elles aient disposé de ces liquidités de la part de la Banque Centrale Européenne et qu'elles les aient conservées auprès de la Banque Centrale Européenne démontre bien que les banques européennes ont une certaine crainte par rapport au refinancement, aux échéances de refinancement auxquelles elles ont à faire face l'année prochaine.
Mais on a quand même l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ce système-là que vous nous expliquez. Elles empruntent auprès de la Banque européenne pour laisser l'argent en fin de compte ou le remettre auprès de la Banque européenne. Comment est-ce qu'on peut expliquer ?
Ben écoutez, le problème que vous avez, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire que si on veut simplifier les choses, on peut dire que vous avez un problème de dette étatique qui apparaît, si l'on veut, par le fait qu'il y a un manque de confiance. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de confiance ? C'est parce qu'il n'y a pas véritablement d'organisme européen qui soit en mesure de garantir l'ensemble de la dette européenne. Et donc, partant de là, ça génère des tensions sur le marché. La solution qui est recommandée par certains serait finalement que la Banque Centrale Européenne devienne le prêteur de dernier recours, que la Banque Centrale Européenne garantisse finalement la dette des États, chose que refusent l'Allemagne et la Banque Centrale Européenne. Et donc, comme on ne veut pas mettre en œuvre cette décision, eh bien, on est obligé de recourir à d'autres mesures. Et les mesures qui sont en fait des mesures, je dirais, de substitution, c'est celles qui ont été adoptées. Et c'est de permettre aux banques, au système bancaire européen, d'avoir accès à la liquidité par le biais de la Banque Centrale Européenne.
François Savary, légère accalmie en cette fin d'année. Pourtant, l'année 2012 pourrait être celle de tous les dangers. Le prêt interbancaire qui ne fonctionne plus en Europe. On voit Petroplus, qu'on a fait les frayeurs avec une ligne de crédit gelée. Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet pour 2012 ?
Je crois qu'on va passer de 2011 à 2012 sans que les inquiétudes fondamentales aient disparu. La problématique ou le problème central reste un problème européen. Le problème du financement des déficits ou du financement de la dette européenne reste un problème qui ne disparaîtra pas au 1er janvier. On sait que l'Europe, pour l'instant, n'a pas été en mesure de véritablement prendre la mesure de la gestion de cette question. Donc si l'Europe continue à tergiverser dans le traitement de ces questions, on risque effectivement d'avoir une année 2012 qui sera toujours sous le signe de la volatilité, toujours sous le signe des incertitudes. Et ça, je crois qu'il est difficile de penser que la question européenne puisse se résoudre les premières semaines du mois de janvier. Donc oui, on a une année 2012 qui pointe avec un certain nombre de risques, ce qui ne veut pas dire que nécessairement la fin du monde, entre guillemets, pointe à l'horizon en 2012. Mais ça veut dire qu'il faut rester dans une gestion du risque qui soit extrêmement prudente.
François Savary, directeur des investissements chez Rel et compagnie. Et on prend la direction du canton de Neuchâtel avec la réforme de l'hôpital neuchâtelois qui n'en finit plus de susciter la polémique. Annoncée la semaine dernière par le Conseil d'État, elle prévoit le maintien de 2 sites hospitaliers à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Le gouvernement entend surtout regrouper toute la chirurgie lourde dans le haut du canton. Une véritable aberration sur le plan médical, selon le médecin-chef du département de la chirurgie de l'hôpital neuchâtelois, Rémi Schneider. Il l'a dit ce matin sur nos ondes. En résumé, c'est un peu l'incompréhension entre les praticiens face au choix des politiques.
Alors justement, on réunit un praticien et un politique ce soir. Pierre-Yves Billa, médecin, président de la Société neuchâteloise de médecine, et Théo Huguenin-Elly, député socialiste de La Chaux-de-Fonds. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Alors Pierre-Yves Billa, on précise que vous exprimez ce soir en tant que médecin à titre personnel. Vous êtes d'accord, vous partagez ce constat de votre confrère Rémi Schneider. Quand on entendait ce matin, il n'y croit pas. Il ne croit pas que tout puisse rester ouvert partout, au fond, que les politiques ne sont pas honnêtes. Vous dressez le même constat ?
Oui, moi j'ai une grande inquiétude pour l'avenir médical de notre hôpital. Effectivement, le souci principal doit être la rationalisation. Nos hôpitaux coûtent 20% plus cher que d'autres cantons non universitaires, puis on doit absolument rationaliser. Ça concerne pas que la chirurgie, ça concerne des polycliniques qui peuvent pas être ouvertes 24 heures sur 24 dans tous les districts, des gériatries qui doivent être centralisées peut-être. Puis c'est clair qu'il y a un problème aigu de la chirurgie. On nous a donné une séparation qui me paraît un peu arbitraire entre chirurgie stationnaire et ambulatoire qui n'existe dans aucun autre hôpital, en délocalisant la chirurgie stationnaire dans le haut, la chirurgie ambulatoire dans le bas. Ce que je peux dire dans ma société, c'est qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que les chirurgiens se mettent d'accord. Donc c'est un plan qui est voué à l'échec parce qu'il faudrait avoir quand même pouvoir réunir les capacités de ces gens-là, leurs énergies. Les chirurgiens du bas vont pas vouloir monter. On les comprend un peu dans le sens qu'ils travaillent dans un hôpital tout neuf. Ici, on nous promène, ce que je dis ici, parce que je suis chaudefonnier, je suis prêt à défendre l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, mais ici, tout est à construire à La Chaux-de-Fonds. Ça va prendre du temps, ça va prendre des années. Voilà.
Théo Huguenin-Elly, alors on le voit, hein, le constat fait par, par des médecins qui ont autorité dans leur domaine est très clair. Là, le politique aurait comme commis une aberration, sur, en tout cas sur le plan de la rationalisation.
Non, pas du tout. Simplement, le politique doit aussi prendre en considération d'autres éléments. Le politique, c'est la, ma conception des choses, vous savez, le politique doit un respect sans faille aux institutions. Or, ici, le cadre institutionnel est le suivant. Le Conseil d'État, depuis 6 ans, a pris un certain nombre d'engagements officiels, d'engagements fermes vis-à-vis des citoyens de ce canton, vis-à-vis des citoyens des montagnes neuchâteloises plus particulièrement. Et il faut aujourd'hui tenir ces engagements. Il en va du bon fonctionnement de nos institutions. Et au-delà de ça, il y a également la question du cadre légal. On n'attend rien d'autre d'un Conseil d'État, finalement, qu'il respecte le cadre légal. Et il y a une loi sur l'établissement hospitalier neuchâtelois qui garantit l'importance relative des sites. Alors, aujourd'hui, ceux qui voudraient finalement placer tous les soins aigus sur l'hôpital de Pourtalès se mettraient en porte-à-faux avec le cadre légal. Le Conseil d'État, au moment où il doit trancher dans ce dossier, puisque HNE n'arrivait pas à se frayer une voie, c'est le Conseil d'État qui a dû trancher. Le Conseil d'État se porte garant du bon fonctionnement des institutions et pour nous c'est quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement important.
Oui, Pierre-Yves Billa, précisément, c'est une décision politique. Le politique a tranché. On voit bien la difficulté de séparer ses activités entre le haut et le bas. C'est sans fin. Il y aura toujours des déçus. Est-ce que là, il ne faut pas prendre acte d'une décision purement politique?
D'accord, je comprends bien ce cadre juridique, mais on est en train de se rendre compte que techniquement, il est difficilement réalisable. Moi, je vois quand même qu'il y a un poids démographique qui est plus bas dans le haut, et je pense qu'il faudra peut-être revoir la loi, puis créer un petit déséquilibre quand même, tout en offrant des prestations de haute qualité sur tous les sites. Il faudra quand même centraliser pour des questions de rationalisation. Alors, M. Huguenin dit à Neuchâtel, peut-être, mais il y a une étude qui va commencer pour voir si on ne va pas faire un site unique ailleurs. Je pense pas qu'on puisse à tout prix, pour des raisons politiques et juridiques, maintenir des sites partout, ou en tout cas équilibrés.
Vous êtes trop pressé, Pierre-Yves Billa. Vous êtes un peu trop pressé, Pierre-Yves Billa. Oui. Ça va peut-être se faire, mais dans quelques années, il faut laisser le temps au temps.
Peut-être dans quelques années, mais il y a urgence de... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a urgence, parce qu'on voit maintenant, ici, dans notre canton, on va appeler ça une fuite des cerveaux. L'ambiance est mauvaise. Et on a perdu l'oncologue en chef, son adjoint. La même chose pour les urgences, son adjoint. On est en train de s'affaiblir, on va rentrer en concurrence avec les autres cantons.
Oui, ça c'est inquiétant.
On doit être fort très rapidement.
Théo Huguenin-Elly, peut-être.
On peut pas attendre pour ça.
C'est inquiétant, oui. la fuite des cerveaux, les gens qui ne sont pas d'accord avec cette décision pour des raisons pratiques et médicales, enfin de pratique médicale. Comment vous répondez à ça?
Oui, vous me permettrez de sourire parce que, en l'occurrence, l'oncologue en chef qui quitte HNE le quitte justement parce que il ne voyait rien venir du côté du site de la Chaux-de-Fonds. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est que la réforme dans HNE existe depuis 6 ans. Il faut vous imaginer qu'on passe avec HNE d'une structure avec 6 sites de soins aigus à une structure à 2 sites de soins aigus, et grâce à la décision du Conseil d'État, la décision que le Conseil d'État vient de prendre, dans ces 2 sites de soins aigus, il n'y aura plus de tout partout. C'est-à-dire qu'on va créer de véritables pôles de compétences, certes, sur 2 sites, mais en supprimant les doublons, pôle de compétences dans le secteur femmes, mères, enfants sur Pourtalès, dans le secteur orthopédie et traumatologie sur Pourtalès, et pôle de compétences dans les secteurs sénologie, oncologie sur l'hôpital de la Chaux-de-Fonds et dans le secteur de cette fameuse chirurgie stationnaire sur l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Tout ça, ça va coûter, Théo Huguenin.
Ça définit l'avenir.
Et moi, j'aimerais dire quelque chose sur les pôles de compétences. C'est très important, parce que là, j'ai l'impression qu'on nous ment un petit peu, parce qu'on nous dit qu'on va nous mettre un pôle d'orthopédie à Pourtalès. On n'a jamais fait d'orthopédie à Pourtalès. Ça sera à la Providence, et c'est pas compris dans le décompte d'hôpital Neuchâtelois. C'est un hôpital privé à qui on offre cette prestation, et l'orthopédie va quitter la Chaux-de-Fonds pour être centralisée en bas, ce qui m'a jamais paru très bon. Et quand on veut offrir des pôles d'oncologie pour le haut du canton, il faut savoir maintenant qu'on va créer un pôle d'oncologie, mais qu'on n'en a pas encore le patron, et pour que le pôle de sénologie, c'est tout ce qui concerne le sein, et surtout le cancer du sein, pour avoir la masse critique d'intervention, il faudra avoir les cas du Jura bernois, il faudra centraliser tout ça.
Des approbations
ça,
sur...
C'est même pas absolument sûr qu'on arrive à la masse critique que même des hôpitaux comme Genève n'ont pas.
Réponse rapide, Théo Gnaeli.
Je suis plutôt assez satisfait que le Conseil d'État ait pris en considération les compétences de l'hôpital de la Providence et cherche à développer un pôle d'orthopédie sur le littoral en travaillant main dans la main avec la Providence. Et puis sur la question de la scénologie, ça c'est l'avenir, développer un secteur en collaboration avec le Jura bernois, en collaboration avec le canton du Jura, ce que Mme Horry est en train de mettre sur pied à l'heure actuelle, pour moi c'est quelque chose évidemment d'extrêmement positif, et la masse critique, en travaillant avec le Jura, la masse critique évidemment on l'aura, et la scénologie s'inscrira parfaitement dans ce pôle d'oncologie qui se trouve sur, avec la scintigraphie notamment, qui se trouve sur l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Désaccord sur le fond, un désaccord sur le fond, on le voit bien, on l'entend bien ce soir. Peut-être Pierre-Yves Billa, en deux phrases, Pierre-Yves Billa, aujourd'hui la décision est prise, la réforme est enclenchée. Oui. En deux phrases, est-ce que vous avez les moyens, l'espoir de vous organiser pour mener la fronde contre cette réforme, ou est-ce que finalement il va falloir l'appliquer ?
Je ne crois pas qu'on va mener une fronde contre cette réforme, et puis on a heureusement des praticiens extrêmement compétents dans nos hôpitaux, vu qu'ils savent faire preuve aussi de souplesse. Toute façon, cette réforme elle est inapplicable dans l'immédiat, puisque l'hôpital de Chaux-de-Fonds, qui a été négligé pendant des années, doit subir d'importantes rénovations. Il faudra un immense travail de persuasion de la part des politiques, parce que vraiment là, on n'a encore pas réussi à souder les équipes du haut et du bas, en tout cas en ce qui concerne la chirurgie, qui est le problème aigu actuellement.
Et on l'a bien remarqué encore ce soir. Merci beaucoup Pierre-Yves Billa, médecin. Merci également à Théo Huguenin-Elly, député socialiste de la Chaux-de-Fonds. Très bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Et on reste dans le canton de Neuchâtel avec un des derniers reliquats de la morale protestante neuchâteloise qui est sur le point de tomber. Le gouvernement souhaite assouplir l'interdiction de danse publique en vigueur dans le canton et autoriser les discothèques à ouvrir les jours de fêtes religieuses. Et surprenant, l'église réformée va même plus loin en proposant tout simplement de supprimer totalement cette interdiction qui est jugée obsolète. Alors, question, cette disparition symbolique marque-t-elle la fin de l'influence morale du protestantisme sur la société ?
Bonne question qu'on va tenter d'analyser avec Pierre Glardon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Théologien, psychopédagogue dans le canton de Vaud. Cette interdiction de danse, vous la jugez également correcte ? C'est une bonne avancée dans la modernité ? Ou est-ce que, au contraire, vous pensez que là, on casse quelque chose d'important, de culturel ?
Mais moi, je suis à la fois en plein accord et plus réservé par rapport à l'attitude de l'Église neuchâteloise, qui sont des collègues que je respecte. Quand le Conseil de synodal neuchâtelois dit que des interdits collectifs n'ont aucun effet sur la relation que chacun peut ou veut entretenir à la transcendance, à Dieu ou à la foi, je pense qu'ils ont raison, et de ce point de vue-là, c'est obsolète. Et moi, je soutiendrais, sous cet angle-là, l'interpellation Eni-Aubert qui a été faite au Grand Conseil neuchâtelois le 27 avril. Mais on est, à mon avis, dans un registre qui est trop légaliste, soit pour, soit contre. Et tout l'aspect symbolique des interdits nécessaires et des repères, à mon avis, est passé sous silence. Je m'explique un peu plus clairement. L'interpellation des députés neuchâtelois, qui a été co-signée ensuite par la moitié quasiment du Grand Conseil neuchâtelois, a été faite donc le 27 avril. Trois jours avant, un jeune homme se donne la mort devant une boîte de nuit neuchâteloise. En février, un autre mort à Neuchâtel. Le même week-end, un mort à Lausanne suite à une rixe. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement la disparition de règles qui ont convenu à une époque, mais c'est que un certain nombre de gens suppriment ces règles et ne mettent aucun repère à la place.
Qu'on ne garde pas le symbole au moins, c'est ça que vous souhaiteriez ?
Moi, je pense que l'Église pourrait soutenir un Conseil d'État qui dit 7, c'était trop, 7 dimanches sans danse, c'est trop, mais non, gardons le symbole de deux fêtes qui ne sont pas dansable, si j'ose dire, pour marquer que dans la vie, il y a d'autres éléments qui sont aussi à cultiver et à rechercher. J'assume à Lausanne, en dehors de mes activités d'église, un cabinet de thérapeute. Qu'est-ce que je constate ? Et qu'est-ce que nous constatons ? Parce que la vie est identique chez les thérapeutes de tous bords. L'écrasement actuel que subissent les jeunes aujourd'hui, il n'est pas tellement moral comme il était il y a peut-être 50 ans, il est économique. Et là, on attend les églises dans des proclamations peut-être plus profilées. Et puis, ce à quoi ils sont confrontés, c'est donc pas une morale étouffante, ce qui était peut-être le cas de leurs aînés ou de leurs grands-parents, mais à une absence problématique de repères. Il n'y a plus de repères, et quand il n'y a plus de repères, la violence augmente. Ce qui m'amuse, au fond, dans l'interpellation Eni-Aubert, enfin ça m'amuse pas, c'est que d'un côté on dit « supprimons les repères », et que dans la même séance de Grand Conseil, vous avez le député Debrot qui s'inquiète très sérieusement de la violence en augmentation à Neuchâtel. Et pour moi, les deux phénomènes sont conjoints. Donc, à mon sens, quand un Conseil d'État qui représente une société dit « nous voulons fixer un repère qui marque que la danse et la fête ne sont pas les seuls buts intéressants pour un individu humain », moi, je pense qu'ils ont raison, et en tant que thérapeute, mais aussi en tant que comme d'église et comme, si j'ose dire, spécialiste des symboles, je laisserai ces symboles forts, comme il y a eu dans le temps, des dimanches sans voiture, qui ne changeaient rien à rien sur le plan de la réalité économique ou de la circulation et du gaz carbonique, mais qui rappelaient symboliquement qu'il y avait d'autres manières de vivre sa vie.
Pierre Glardon, je vous remercie beaucoup, vous êtes théologien. Merci d'avoir donné votre avis sur cette volonté d'assouplir l'interdiction de danse publique qui est actuellement en vigueur dans le canton de Neuchâtel. Une très bonne soirée à vous.
Merci à vous, au revoir.
Et on rejoint notre historien fil rouge de notre série Carte blanche aux historiens cette semaine, Karel Bosco, en direct du studio de Genève. Karel Bosco, évidemment, alors vous l'avez mentionné, on vous avait invité pour le jour du décès de Václav Havel. Vous étiez un peu senti frustré du temps de parole accordé. Aujourd'hui, la parole est à vous. Carte blanche destinée à Václav Havel. On va élargir également. Cet idéal, Václav Havel, de démocratie, comment vous le définiriez ?
Alors, disons, peut-être juste une petite mise au point au départ. Je lisais encore récemment un article qui lui était consacré, où on le présentait comme un champion de l'anticommunisme, et j'ai souvent entendu d'ailleurs ce discours depuis son décès. Je crois que c'est une manière fausse d'envisager son engagement, sa réflexion, son discours. Il a dit lui-même, je n'ai jamais été un de ces anticommunistes endurcis et acharnés. J'ai combattu le système parce que le système était absurde, était stupide, était cruel, était inefficace. Et Dana Němcová, qui est une grande figure de la dissidence tchèque, disait, elle, je n'ai pas combattu pour que le communisme s'effondre, il n'en avait pas besoin, j'ai combattu pour que la dignité humaine ne s'effondre pas. Et je crois que c'est là vraiment placé le combat qu'ils ont tous mené, donc Havel et les siens, tous ceux de la Charte 77, et au-delà même de la Tchécoslovaquie, je pense à la Pologne, je pense à l'Allemagne de l'Est, sur le véritable terrain, c'est-à-dire le terrain de la liberté. Et c'est très important de le rappeler parce que nous vivons dans une époque qui se veut ou qui se dit postmoderne, enfin dérision, pastiche, etc. La fin des grands récits, Dieu sait si nous avons entendu cette formule ressassée à l'infini, plus aucune grande cause mobilisatrice, etc. Et je ne comprends pas qu'on puisse dire ça, alors qu'on voit dans le monde entier, que ce soit les peuples arabes, que ce soit les paysans dans notre très nombreux pays, les femmes bien entendu, qui mènent un extraordinaire combat, un combat courageux et difficile pour la liberté. Alors s'il y a un grand récit, et ce n'est pas un récit, c'est une expérience historique aujourd'hui, c'est bien ce combat pour la liberté. Et en ce sens-là, ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, ce qui s'est passé en Europe centrale et orientale, est non pas une référence, mais une source de réflexion et peut-être une source d'inspiration pour nous aujourd'hui.
Source de réflexion, cette Europe centrale qui, vous le dites, a pensé en profondeur la démocratie, en son fond, en sa forme. Quelles sont les figures qui, de votre point de vue, incarnent ce mouvement et cette pensée pour la démocratie et la liberté?
Oui, il y a des grands noms qui sont connus, mais dont on oublie de dire que leur enracinement est en Europe centrale. Je pense d'abord à Hans Kelsen, par exemple, le théoricien du droit et de la démocratie, une très grande figure dans l'histoire des idées juridiques de la première moitié du XXe siècle. Je pense à Joseph Schumpeter, qui est surtout connu comme économiste, qui est né en Moravie. Kelsen était né à Prague. Je pense à Jan Patočka, qui est le grand philosophe tchèque de la première moitié du XXe siècle, qui a été mis à mort par le pouvoir en 1977. Tous ont, d'une manière ou d'une autre, essayé de réfléchir à ce qu'est la démocratie. Alors, les réflexions, évidemment, ne sont pas convergentes. Kelsen y voyait essentiellement une procédure. Schumpeter y voyait essentiellement une méthode. Et c'est évidemment face à ce discours-là que Havel affirme autre chose dans le sillage de Patočka. La démocratie, c'est une exigence à caractère éthique. Et c'est sans doute peut-être un des fondements de la culture européenne. Kelsen et Schumpeter récusent tout fond religieux à la démocratie, tout fond métaphysique. La démocratie, c'est un ensemble de procédures, rien de plus, rien de moins. Il ne faut en aucun cas enraciner la dynamique démocratique dans une exigence à caractère éthique et moins encore à caractère religieux. Eh bien, c'est là ce que Havel refuse, estimant qu'il faut bien au contraire enraciner la démocratie dans ce qu'il appelle un ordre immatériel, qui, je dirais, nous permet de nous élever au-dessus de nous-mêmes, de nous élever au-dessus de notre quotidien, de nos soucis permanents, pour embrasser la collectivité dans son ensemble, pour sortir notre isolement. C'est Patočka lui-même qui disait que l'individu doit sortir des tranchées dans lesquelles il est enfermé pour véritablement affirmer sa solidarité. Et cette solidarité, elle ne peut s'exprimer que dans le cadre d'une démocratie, c'est-à-dire d'un régime de dialogue où le sens même de la vie, le sens même de la vie en société est, dans le fond, le premier objet d'une discussion collective. Et c'est ça la grande dignité de la démocratie.
Cet idéal démocratique, de liberté, Karel Bosco, vous le retrouvez en ce moment, cette année 2011, dans les soulèvements dans le monde arabe, qu'on a qualifié de printemps arabe, en référence peut-être à Prague, au printemps de Prague en 89. Vous y voyez quelques germes, une continuation?
Je ne pense pas que c'était en rapport avec le printemps de Prague qui se situait quand même dans le cadre d'un État communiste. Je pense plutôt à la révolution de velours. Je pense plutôt à l'octobre est-allemand. Je pense plutôt à ce qui s'est passé en Hongrie, en Pologne. Des populations entières qui se mobilisent énergiquement, mais pacifiquement, des semaines durant, pour demander au pouvoir en place soit de vider les lieux, soit de discuter, d'entrer en négociation avec la dissidence organisée pour un partage du pouvoir qui permettra l'accès à une société pluripartite, etc. Et disons, dès les premiers instants du mouvement en Tunisie, moi c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est ce mouvement de population. Il n'y a pas d'avant-garde particulière, il n'y a pas eu de mot d'ordre spécifique. Il y a simplement, bon, d'une part, le ras-le-bol par rapport à une dictature corrompue, mais aussi la volonté de liberté qui s'exprime. Alors que cette volonté de liberté soit par la suite récupérée par ceux-là même qui ne se sont jamais mobilisés pour la liberté, ça c'est un autre problème, et c'est un problème extrêmement grave.
Et c'est le cas, de votre point de vue. Elle a été captée, ce soulèvement très pur a été capté, récupéré.
Bon, les élections ont été organisées, on a vu la victoire en Tunisie d'un islamisme modéré. En Égypte, on attend encore le résultat des élections. Il y a une montée en puissance des salafistes, au détriment même des frères musulmans, c'est ça qui est assez inquiétant. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment des mouvements politiques ne puissent pas se mettre en harmonie avec ce qui est l'exigence profonde de la population. La population ne demande pas spécifiquement la charia, l'application d'une loi religieuse. Elle demande d'abord la possibilité de libre discussion, de libre association, etc.
Merci beaucoup, Karel Bosco. Oui, pour conclure. Vous voulez encore finir?
Oui, je voulais juste terminer par une, comme je l'avais fait la dernière fois, si vous me permettez, par une citation de Havel qui me paraît destinée à la fois à nous et à tous ceux qui se destinent à la politique. Le devoir des hommes politiques est de réveiller le potentiel de bonne foi qui sommeille dans notre société, de lui indiquer une direction, de lui ouvrir des voies. On dit qu'une nation a les hommes politiques qu'elle mérite. Dans un certain sens, il en est réellement ainsi. Les hommes politiques sont en effet le reflet d'une société. Ils incorporent son potentiel, mais le contraire est paradoxalement vrai aussi. Il dépend d'eux, dans une large mesure, de libérer certaines forces sociales, de s'appuyer sur ce qu'il y a de meilleur ou de pire dans chaque citoyen.
Karel
Je crois
Bosco.
Que ça, c'est dans le fond une sorte de profession de foi sur la vocation du politique que nous aurions tous intérêt à méditer.
Merci beaucoup pour vos propos ce soir. Karel Bosco, enseignant d'histoire à Genève, faculté des lettres et au collège Claparède. Demain, Georges Niva sur les querelles mémorielles en France, en Russie, en Ukraine. Merci beaucoup Karel Bosco, c'est la météo d'Eric Faucher.
Le ciel de la journée a été bien ensoleillé malgré des voiles nuageux en altitude et quelques brouillards résistants sur le plateau. Une perturbation s'approche de nos régions plus vite que prévu et le ciel s'annonce couvert déjà ce soir avec quelques chutes de neige partout pour la nuit. Une faible couche cela dit, mais qui implique malgré tout la prudence sur les routes. Demain, dans le courant de la journée, les nuages et la neige se concentreront aux régions alpines et préalpines. Sur le plateau et le Jura, des éclaircies se produiront. Moins 1 degré demain matin en plaine, 1 à 4 l'après-midi au maximum. À 2000 mètres, on perd plus de 10 degrés, maximum moins 7. Soyez prudents également vendredi. On annonce une nouvelle vague de neige sur la Suisse. Elle amène plus de 10 cm en plaine. Samedi, ciel encore couvert avec des flocons mais en dessus de 1000-1500 mètres, donc de la pluie en dessous. Dimanche, l'année 2012 commencera sous un ciel changeant avec quelques gouttes, quelques flocons en dessus de 1500 mètres.
Et il est 19h sur la première. Excellente soirée.